Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le numéro de Noël et je me fais un peu le porte-parole de tous les mélomanes toulousains et de notre région en disant que notre cadeau de Noël, nous l'avons déjà reçu la semaine dernière lorsque nous avons appris que Tarmo Peltokoski était nommé officiellement directeur musical de l'Orchestre National du Capitole, même s'il faudra attendre septembre 2024 pour qu'il prenne pleinement ses fonctions. Cette nomination était espérée, surtout depuis le concert qu'avait dirigé le jeune chef finlandais il y a quelques semaines à la Halle aux Grains, un concert qui avait marqué les esprits. Une nouvelle page s'ouvre donc pour l'orchestre et ses musiciens, et l'on peut même parler de nouvelle aventure. Nous allons y revenir lors de cette émission où j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'Orchestre National du Capitole. À ses côtés, toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons commencer en nous replongeant avec Serge dans l'actualité musicale récente où l'Orchestre du Capitole tient d'ailleurs encore toute sa place. Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue à Jean-Baptiste Fra que je remercie pour sa venue à cette émission. Noël approche donc, oui. Mais le traditionnel et même les traditionnels concerts de Noël ont déjà eu lieu au Théâtre du Capitole. C'était les 10 et 11 décembre avec une œuvre de circonstance interprétée par une formation prestigieuse dirigée par un musicien très célèbre. Serge va nous rappeler de quelle œuvre, de quelle formation et de quel musicien il s'agissait.
C'est la surprise alors.
Ah oui.
Non, pas vraiment. Il s'agissait de Jordi Savall, bon, qui a déjà pris ses marques au Théâtre du Capitole, hein. Il vient tous les ans. Hein.
Bah, il y a une espèce de résidence. Hein,
oui.
Donc, entre le Concert des Nations, Jordi Savall.
Exactement,
donc,
et c'est très bien.
Le Théâtre du Capitole devenu Opéra National du Capitole. Hein,
bien sûr.
Il ne faut pas oublier.
Précisons-le, oui, c'est très important. Donc oui, il était là pour une exécution partielle, disons, des trois premières cantates du fameux Weihnachts Oratorium de Jean-Sébastien Bach, donc l'oratorio de Noël, donc trois premières cantates. D'une part, je voudrais préciser que la salle était pleine, et elle a été pleine pour les deux représentations,
oui.
Donc c'est un bon signe. Il faut reconnaître que les concerts, actuellement, sont pleins, les salles
sont pleines pour les concerts.
Donc c'est vraiment une discipline qui attire beaucoup les Toulousains.
Et ce n'est pas le cas dans toutes les villes de France. Hein.
Non.
Il y a quand même quelque chose qui se passe à Toulouse. Hein.
Exactement. Alors, il y avait plusieurs surprises ce jour-là, c'est-à-dire que l'orchestre du Concert des Nations, une trentaine de musiciens, était associé au chœur de l'Opéra National du Capitole, qui, trois jours avant, chantait dans la Bohème tout de même.
Ouais.
Ça fait quand même un saut énorme.
Oui. Un peu acrobatique.
Acrobatique. Et qu'ils ont magnifiquement négocié. Puisque vraiment, l'accord entre les deux, l'ensemble qui joue sur instrument ancien et les chanteurs du chœur, vraiment, on communiait dans le même style. Alors, il y avait d'une part le chef de chœur, Gabriel Bourgoin, évidemment, du chœur du Capitole, mais il y avait également un expert en préparation, qui est un complice de Jordi Savall en la matière, qui s'appelle Lluís Vilamajó, qui est vraiment un chanteur qui chante beaucoup avec Jordi et qui est donc... excellent dans la manière de préparer les chanteurs. Alors, ces trois premières cantates ont été données avec cet ensemble, ce chœur, et quatre solistes, comme cela est de rigueur, avec tout d'abord, dans le rôle de l'évangéliste, puisqu'il y a un évangéliste comme dans les Passions, le ténor Valentin Till, qui fut il y a très peu de temps, sur cette même scène, un tamino magnifique.
Oui.
Vraiment, qui a marqué.
Excellent chanteur.
Alors ça, c'était très bien, le style était parfait. Et même le baryton, c'était le Papageno de la flûte enchantée. C'est tout de même incroyable. Donc ça fait plaisir, c'était le baryton Camille Ben Saïn Lachiri, qui avait fait un Papageno éblouissant. Et puis il y avait un alto, alors alto masculin, qui est Mon Murat, et qui, pour moi, constituait la révélation. Vraiment, un timbre magnifique. Un timbre très chaud, très chaleureux, qui vocalise bien. Vraiment un nom à retenir. Et puis il y avait une soprano, Loris Mirnov Amish, dont la voix évoque plutôt celle d'une voix d'enfant, en quelque sorte. Comme cela se pratiquait d'ailleurs à l'époque. Et donc, nous avons eu droit à ces trois cantates, les unes après les autres, avec une ferveur Et un style musical auquel Jordi Savall est rompu, évidemment, hein, donc il n'y a vraiment aucun problème. Avec ce début de la première cantate qui s'intitule « La naissance » avec ses « frolocket », c'est-à-dire « Réjouissez-vous », donc ses trompettes et timbales, c'était vraiment très, très jubilatoire en quelque sorte.
Comme ça doit l'être.
Ah, comme ça doit l'être, oui. Et puis il y a des solistes instrumentaux qui ont un rôle important avec notamment, alors il y a les trompettes naturelles évidemment, qui sont d'un jeu très très redoutable hein, pour les musiciens et qui ont fait ça avec une aisance incroyable. Et puis on a eu droit aux hautbois d'acacia, ces fameux instruments, ces bois avec un petit pavillon, vous voyez, et alors ils sont utilisés dans la séquence qui illustre la crèche hein, avec les bergers. Et puis, il y avait la flûte de Marc Antaille, alors non connu, hein, Marc Antaille, un des grands.
Grande famille de musiciens.
Grande famille de musiciens. Oui, oui, absolument. Et donc, magnifique, qui accompagnait l'aria redoutable d'ailleurs du ténor, avec des vocalises ahurissantes. Et puis, un violon très virtuose de Manfredo Kremer, qui est le titulaire en quelque sorte, super soliste, on pourrait l'appeler, bien que c'est un nom qui ne s'utilise pas pour cet ensemble, de l'ensemble de Jordi Savall, de Concert des Nations. Et donc, un moment très chaleureux, très fervent, avec une finesse, un sens des phrasés, évidemment, ça on est habitué avec Jordi Savall, de première beauté, donc très très bien, hein. Jusqu'à l'adoration des bergers, ça a été un très beau moment que nous avons vécu dans ce théâtre du Capitole, même si l'acoustique du théâtre n'est pas parfaitement adaptée à cette musique,
ce genre d'œuvre, oui.
C'est un peu sec. Hein, oui. Évidemment, dans une église, ça serait un peu plus sonore, mais on ne peut pas tout avoir.
C'est fait pour, à la base, évidemment.
Oui, 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 oui. Mais tout va bien, c'était vraiment...
Mais je pense que le public a été ravi,
ravi
ce soir-là.
Acclamé les musiciens. Bon, ils auraient presque voulu qu'on bisse un passage, mais quand même, Jordi Savall, non, n'a pas accordé ce bis.
Un monument de la musique sacrée européenne, ce Weihnachtsoratorium, cet oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, dont je vous propose d'écouter le premier air. Serge Chosy vient d'en parler, très célèbre. Jochzet Frohlocket auf Preiset die Tage, par le Concert des Nations, dirigé par Jordi Savall. Jarzat Frohlocket auf Preiset die Tage, début de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Changement de décor et d'ambiance avec le concert qui va nous intéresser maintenant. Je dis concert, mais je devrais dire récital. Celui qu'a donné Katia Bougnatichvili le 13 décembre à la Halle aux Grains, à l'invitation de la saison des grands interprètes. Quelles œuvres a joué la célèbre pianiste franco-géorgienne, Serge?
Eh bien, elle a défendu un programme qui obéissait à une certaine logique musicale, puisque ça débutait par une sonate, la dernière d'ailleurs, de Franz Schubert, et puis ça évoluait vers une transcription de Schubert par Liszt, et puis ça s'achevait avec du Liszt pur jus, en quelque sorte. Donc, on évolue d'un Franz à l'autre, de Franz Schubert à Franz Liszt, au cours du concert. Alors, comment dire, a priori, je n'imaginais pas assez peu Katia Bougnatichvili dans Schubert. Et effectivement, sa vision de la sonate numéro 21, la fameuse Deutsch 960, eh bien, j'ai trouvé que son jeu tenait plus de la fantaisie au sens schumannien du terme que de la douce rigueur que réclame Schubert. Enfin, Schubert, c'est l'intermédiaire. Or, elle appuie sur les extrêmes. Les extrêmes sur le plan des tempi, d'une part, et les extrêmes sur le plan de la dynamique. Et donc, eh bien, les pianissimi, il faut tendre l'oreille pour les entendre, et les fortissimi, mais ce sont des explosions. Hein. Donc, c'est assez bizarre. Alors, cette première sonate, moi, ce qui m'a un peu gêné, surtout dans le premier mouvement, génial premier mouvement, ce sont ces fréquents changements de tempo. Ici, elle accélère et ailleurs, elle ralentit. Et puis, il y a des silences extrêmement significatifs. Et là, elle rallonge les silences, elle multiplie par deux, en quelque sorte, à l'extrême. Il me semble que des nuances intermédiaires auraient été plus nécessaires. Alors, ça, c'était la première sonate. Ensuite, dans l'impromptu numéro 3, toujours pur jus de Schubert, là, les choses se sont un peu rétabli en quelque sorte. C'était un mode absolument plus naturel de l'expression que celui qu'elle a développé dans la sonate. Et puis ensuite sont arrivées donc la transcription par Liszt de l'un des leaders de Schubert, l'un des tout derniers d'ailleurs, Steinchen, très célèbre sérénade, qui est une œuvre ultime, hein, en quelque sorte, puisque c'est l'un des tout derniers leaders du recueil, Schwanengesang, titre bien porté, puisque c'est le chant du cygne, oui, hein, qu'il a composé juste avant sa mort. Hein. Bon, là, c'était aussi un peu plus équilibré, avec une invention mélodique, et l'interprète lui a conservé ce caractère touchant, par sa simplicité, parce que c'est très simple comme musique. Et puis ensuite, alors, on est passé à du Liszt. Mais alors, c'est encore plus que ça. C'était la Rhapsodie hongroise numéro 2, célébrissime, mais non pas la version originale. La version révisée par Vladimir Horowitz, oui, donc déjà, qui a rajouté, et rearrangée en quelque sorte par Katia Bougnatichvili. Donc, il y avait plusieurs étapes. Et là, alors, là c'était vraiment hallucinant, hein, complètement hallucinant. On pourrait parler d'une version ébouriffante, hein, là, de cette Rhapsodie hongroise. Mais pourquoi pas, hein, c'est pas une œuvre de recueillement, la Rhapsodie hongroise numéro 2, mais avec des fortissimi, mais stupéfiant. Hein. Alors, il m'est revenu cette expression que l'on entendait à une certaine époque pour qualifier les pianistes qui tapaient fort, on les appelait les broyeurs d'ivoire. Ben, c'est un peu ça qu'elle a joué là, hein, les broyeuses d'ivoire. Mais bon, toujours avec panache, évidemment, hein, c'est une grande pianiste, je ne veux pas nier.
Ah, il y a un côté volcanique qui
est complètement.
Qui peut plaire,
oui, complètement. Oui, oui. Alors, elle a eu un succès extraordinaire, évidemment. Elle a été acclamée et elle a donné pas un ni deux mais trois bis, avec tout d'abord le bien nommé Precipitato de la sonate numéro 7 de Prokofiev. Alors vous imaginez,
oui, c'est le troisième mouvement ça, oui.
Sous ses doigts,
oui, ça devait être bien précipité.
Oui. Et puis après, contraste étonnant, elle a joué son propre arrangement de la javanaise,
de Serge Gainsbourg,
Gainsbourg. Ah, c'était très bien, très astucieux, très, très amusant. Et elle a terminé par un autre arrangement, celui de Johann Sebastian Bach, d'un mouvement du concerto célèbre pour hautbois de Benedetto Marcello. Donc encore un double arrangement, vous voyez, elle a beaucoup, beaucoup travaillé dans ce domaine.
Et apparemment, ça a beaucoup plu au public. Si
ah, beaucoup,
compris,
beaucoup. Parce que, elle a eu un vrai triomphe.
On a compris que vous, votre appréciation était un peu contrastée.
Oui, c'est ça, on peut dire ça.
Mais ce qui confirme que ça reste une pianiste controversée, mais il y en a d'autres, c'est pas la seule. Hein.
Mais évidemment, évidemment. Mais je dois dire que j'attends du Schubert plus proche du compositeur quand on entendra Maria João Pires.
Oui.
C'est tout à fait l'opposé comme tempérament. Alors,
c'est
je voudrais quand même dire
du piano.
Que pendant ce concert, il y a une chose qui m'a profondément irrité, c'est la multiplication des toux indiscrètes du public. Mais ça n'arrêtait pas.
C'est contagieux, là, tout. Vous avez remarqué.
Ah, oui, oui, c'est absolument.
Avant les concerts, personne ne tousse, et dès que ça commence, il y a des toux qui partent de tous les côtés.
Mais enfin, les spectateurs devraient savoir que si on met un tissu, un vêtement,
oui, ça amortit, oui.
Un foulard devant la bouche, ça amortit. Mais ils mettent la main devant la bouche qui fait caisse de résonance.
Ah, ben oui, c'est épouvantable. Faut le savoir, ça.
Alors bon, mais ça, c'est un peu un coup d'humeur, là, de ma part.
C'était le coup de gueule de Serge Chauzy contre les tousseurs de salles de concert. Eh bien, nous allons écouter Katia Bugnati-Juilly dans une interprétation d'une des pièces qu'elle a jouée le 13 décembre à la Halle aux Grains. Il s'agit de l'impromptu numéro 3 de Franz Schubert. L'impromptu numéro 3 de Franz Schubert, interprété par Katia Bugnati-Juilly, une pièce qui était au programme de son récital du 13 décembre. Prochain rendez-vous des grands interprètes, ce sera le 17 février avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigé par son directeur musical Renaud Capuçon. Nous restons à la Halle aux Grains pour le concert suivant, celui de l'Orchestre National du Capitole, le jeudi 15 décembre, qui a donné lieu à deux premières à Toulouse, celle du chef finlandais d'origine russe Dima Slobodeniuk et celle du pianiste russo-lituanien Lukas Geniusas. Il y avait trois œuvres au menu de la soirée, Serge.
Oui, et vraiment, ça a été une révélation que ces deux personnalités, d'abord qui se combinaient parfaitement, et puis qui vraiment apportaient quelque chose aux œuvres qu'ils jouaient. Hein. Avec, donc, alors, il faut quand même rappeler que donc, Dima Slobodeniuk a d'abord étudié le violon, et puis il est devenu l'un des grands élèves du fameux légendaire Jorma Panula, de l'Académie Sibelius d'Helsinki, comme le personnage dont on va parler en fin d'émission. Tarmo Peltokoski, qui lui aussi a été élève.
Comme Klaus Mäkelä, comme beaucoup d'autres.
Tous les grands.
Esa-Pekka Salonen, enfin bon, la liste est longue.
Non, mais la Finlande est
Oui, mais ça, on va en parler.
En pointe, là, dans ce domaine-là.
Et alors, c'est une usine à champions, comme on dirait dans le sport.
Oui, mais surtout un artiste. Et donc, alors, ce qui caractérise un peu ça, la manière de diriger du chef, c'est la précision et la clarté. Tout est transparent, tout s'entend, c'est absolument magnifique. Et donc, il a débuté par une pièce, alors pas très habituelle, une pièce du Britannique d'aujourd'hui Thomas Hades, donc une pièce qui s'intitule « Three Piece Suite » et qui réunit trois interludes instrumentaux de son premier opéra, qui s'appelle « Powder Her Face », c'est-à-dire « Poudrer lui le visage », en quelque sorte, qui a fait scandale à sa création, d'ailleurs. Alors, il y a l'ouverture, la valse et le final, trois courtes pièces réunies, là, et alors, avec un esprit particulier dans l'écriture. Alors, l'écriture est à la fois complexe et brillante, mais avec des accents étonnants, en particulier tonitruants pour l'ouverture, mais tout ça est ironique, plein d'ironie, d'humour, et donc vraiment un beau moment, coloré, pour ouvrir d'une dizaine de minutes, c'était très court, hein, donc pour ce début de concert. À la suite de cette ouverture, en quelque sorte, eh bien, nous avons entendu le troisième concerto pour piano et orchestre de Sergueï Rachmaninov. Alors, ça fait un contraste énorme, évidemment, avec la pièce précédente. Hein. Et là, les deux interprètes se sont investis dans une œuvre qui reste emblématique, hein, et avec un engagement stupéfiant de la part des deux, et de l'orchestre, donc, ils sont à trois, en quelque sorte. Et alors là, dès les premières notes, là aussi, ce que l'on a noté de la part du jeu du pianiste Lucas Geniusas, c'est la transparence, la fluidité, la mobilité incroyable, exemplaire. On entend tout. Ça n'est pas du tout un Rachmaninov lourd et romantique à l'excès, comme quelquefois on l'entend. Alors, c'est cette clarté du toucher qui a subsisté tout au long des trois mouvements de ce magnifique concerto. Étonnant, hein, vraiment, avec le fait que l'équilibre entre l'orchestre et le piano, s'est révélé parfait. Ça n'est pas toujours le cas.
Non.
Mais
c'est la difficulté du concerto.
Là, vraiment, chapeau et la complicité absolue, puisque l'orchestre, là, offrait au pianiste une sorte de cocon sonore qui est très loin du simple accompagnement. Hein. C'était beaucoup plus que ça. Donc, un très bon moment. Avec cette complicité très touchante dans l'intermezzo, qui est adagio, magnifique, et puis la jubilation du final, alors qu'il s'achève dans un crescendo, mais alors, un crescendo presque insupportable, tellement il est fort, et puis avec cette fameuse signature de Rachmaninov, bon, évidemment, qui achève l'œuvre. Donc, un très très beau moment, et qui a eu un succès énorme de la part du public, tel que le pianiste est revenu pour jouer deux bis. Alors, deux bis complètement inhabituels. Deux bis d'un compositeur que, pour ma part, j'ai découvert. Compositeur russe qui s'appelle Leonid Desiatnikov, qui est né en 1955. Et il a joué deux de ses, je crois qu'il y en a une dizaine, Songs of Bukovina. Ne m'en demandez pas plus. Je découvrais, la même transparence du jeu, le même pouvoir expressif qu'il déployait dans la musique de Rachmaninov. Eh bien, on le retrouve là. C'est vraiment un talent dont il faut se souvenir.
Eh bien, on va écouter un premier extrait de ce concert et de ce concerto numéro 3 de Rachmaninov. C'est le début, le premier mouvement, Allegro ma non tanto, interprété par Lucas Geniusas, accompagné par l'Orchestre National du Capitole. Le premier mouvement, Allegro ma non tanto, interprété par Lucas Geniusas, accompagné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Dimas Lobodeniuk, une version qui a été enregistrée que vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube de l'orchestre. Il y avait donc une troisième œuvre au programme de la soirée, Serge, L'Oiseau de Feu, d'Igor Stravinsky, oui. Une œuvre qu'on a souvent entendue à la Halle au Grand.
Oh, oui.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont Dimas Lobodeniuk l'a dirigée?
Et mais il n'a pas dirigé l'une des suites du ballet, mais il a dirigé le ballet intégral, le ballet original. Et ça, c'est pas très souvent qu'on l'entend.
C'est même très rare.
En concert. Moi, le seul souvenir que j'ai de l'avoir entendu, c'était à la Halle au Grand au cours du ballet.
Oui.
Qui était dansé par
vraiment
le ballet,
le ballet
du
avec des danseurs. Ouais.
Alors là, oui, mais en concert, à
très
Toulouse,
rare,
je ne l'avais jamais entendu.
C'est souvent la suite.
Donc c'est intéressant. Alors, le chef, là, l'a joué comme un continuum symphonique avec des transitions orchestrales qu'on n'a pas l'habitude d'entendre entre les divers épisodes que eux on reconnaît évidemment quand on connaît bien les suites. Et il a joué tout ça avec une précision, je dirais la précision qu'exige la pratique du ballet. Le ballet, il faut que ce soit précis, hein, la musique du ballet, c'est important. Donc il a joué ça avec des couleurs magnifiques. Bah, l'orchestre du Capitole n'en manque pas, c'est évident. Et avec un soin apporté à chaque détail, mais qui s'intègre dans une vision qu'on pourrait qualifier de musique des images, en quelque sorte. Donc, c'était très visuel. Et il faut féliciter aussi la qualité des solos instrumentaux hein, qu'il y a. Il y en a d'état, avec notamment les solos de cor joué par Jacques Delaplanque, dont je vais reparler, qui est un grand corniste, un grand musicien, hein, on le sait. Et puis, les solos de la nouvelle violoniste, super soliste de l'orchestre, Jaewon Kim, qui, comme son nom l'indique, est coréenne. Voilà, qui était intéressant, on l'entendait. Elle était déjà venue occuper ce poste.
Oui, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Mais donc, voilà, donc une nouvelle violoniste, super soliste, ce qui est toujours très émouvant de voir ces remplacements. Ça a été un beau moment. Et puis ensuite, il y a eu une conclusion avec une célébration émouvante, je dois dire.
J'allais reprendre votre terme. C'était une soirée à émotion.
À émotion, absolument. À émotion. Le délégué général de l'orchestre, ici présent autour de cette table, Jean-Baptiste Fra, ben il est arrivé avec 3 bouquets de fleurs. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe donc ? Et en fait, il a voulu ainsi saluer 2 musiciennes et un musicien qui quittent l'orchestre, qui étaient là pour leur dernier concert.
Et qui prennent leur retraite.
Qui prennent leur retraite.
Et ça arrive même aux musiciens.
N'est-ce pas ? Alors, ces remerciements, ils se sont adressés donc à 2 violonistes, Sylvie Viviès et Marie-Josée Fougeroux, acclamés par leurs collègues, évidemment, et puis aussi par celui qui avait particulièrement brillé au cours du concert, le cor solo Jacques Delaplanque, vraiment qui avait fait des merveilles au cours de ce concert. Et donc, l'ensemble de son pupitre lui a même ménagé une touchante sérénade en entonnant « Ce n'est que nos revoirs » qui a fait fondre le musicien. Il n'a pas pu retenir ses larmes, là. Vraiment, c'était trop. Et donc, je crois qu'il faut remercier tous ces valeureux musiciens, ces grands acteurs de la musique toulousaine auxquels nous devons tant de bonheurs musicaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut les remercier pour tout le bonheur qu'ils nous ont donné pour certains des décennies, hein, parce qu'ils étaient à l'orchestre depuis longtemps.
Ah, oui.
Vous parlez de Jacques Delaplanque, ça ne va pas être facile de remplacer Jacques Delaplanque.
Non, c'est certain.
Jean-Baptiste Fra, un mot sur cette cérémonie des adieux, on va appeler ça comme ça.
Oui.
Oui, c'est sûr. Alors, c'était un moment particulièrement chargé, hein, ça c'est clair. On a bien senti l'émotion des musiciens et du public.
Et du public. Oui, bien sûr.
Absolument.
On est attaché à nos musiciens. Ouais.
Ah oui, mais ça a été une ovation pour chaque musicien.
Absolument. Nos 2 musiciennes et puis Jacques Delaplanque qui est une figure de l'orchestre depuis tant d'années et un musicien tellement exceptionnel. Voilà. À la fin du concert, je lui ai dit « J'aurais voulu arriver 10 ans plus tôt pour vous entendre plus souvent. » Donc, ils sont chez eux à l'orchestre, ils reviennent quand ils veulent.
Oui.
Alors, on va écouter un extrait de cette version de L'Oiseau de Feu parce qu'on peut aussi la réécouter sur YouTube, celle-ci. Donc, L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, telle qu'elle a été donnée par l'Orchestre National du Capitole en version ballet jeudi dernier, sous la direction de Dimas Lobodeniuk. Donc l'extrait en question, c'est le célèbre, le grandiose, le majestueux final. Quand je vous dis que c'est grandiose ce final de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, et en plus dans cette magnifique interprétation de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Dimas Lobodeniuk, c'était jeudi dernier à la Lograin, une version que je conseille donc de réécouter sur la chaîne YouTube de l'orchestre. Jean-Baptiste Fra, un mot sur ces deux musiciens qu'on découvrait à Toulouse, donc Lucas Geniusias et Dimas Lobodeniuk. A priori, Serge les a beaucoup aimés, le public aussi. On devrait les revoir, vous pensez, à Toulouse ?
On les reverra à Toulouse, oui.
Voilà, ça on sait.
Très bien.
Oui. Non, c'est...
Et je pense que personne ne s'en plaindra, non, apparemment.
En effet.
Alors Serge, vous vouliez aussi revenir sur un concert auquel vous avez assisté samedi au Temple du Salin, un concert donné par l'ensemble vocal toulousain Nota Bene, dirigé par Delphine Armand, au cours duquel on a pu entendre aussi la mezzo-soprano, toulousaine également, Juliette May. C'était un programme de chant de Noël traditionnel qui vous a, semble-t-il, beaucoup plu, comme vous a beaucoup plu cette chanteuse.
Ah oui, tout à fait, c'est vraiment une révélation là aussi. Alors, il faut dire qu'il y avait non seulement le chœur Nota Bene, sous la direction de Delphine Armand, mais également le chœur d'enfants du conservatoire, dirigé par la même d'ailleurs, qui est professeur au CRR de Toulouse. Et puis, alors tout d'abord, on a entendu le psaume 42 de Félix Mendelssohn, avec au piano Christophe Larieux, bien connu à Toulouse, hein, grand pianiste, donc, et qui travaille beaucoup avec le Théâtre du Capitole. Et donc, une belle exécution de cette pièce écrite pour chœur mixte, voix soliste et orchestre à l'origine, hein, ici dans sa version pour piano, avec l'apparition, donc, comme soliste de Juliette May, qui est une mezzo-soprano toulousaine, et qui vraiment a fait impression, d'autant plus qu'à la suite, elle a donné un mini-récital avec des œuvres complètement différentes, avec tout d'abord deux leaders de Brahms, Der Tod d'Assis die Kühlenacht et Immerleiser wird mein Schlummer, donc avec ce ton de la confidence incroyable. Et ensuite, elle a donné deux œuvres complètement différentes avec un extrait de la Donna del Lago de Rossini, alors là, un feu d'artifice de vocalise, staccato qu'elle pratique de manière impressionnante. Elle a 22 ans et vraiment, elle a déjà une technique.
Mais c'est un vrai espoir du chant lyrique français.
Absolument, absolument. Il faut vraiment le souligner. Elle a impressionné. Et ensuite, elle a donné deux autres œuvres très rares aussi, avec un extrait de La Cendrillon de Jules Massenet et de L'Étoile d'Emmanuel Chabrier. C'est pas très souvent qu'on entend des extraits de ces œuvres-là. Donc elle a tout, le sens dramatique, l'éclat vocal, le sens du phrasé. Enfin, vraiment, bravo à elle. J'espère qu'on la réentendra rapidement sur une scène toulousaine ou autre. Donc, ça sera très bien. Et puis ensuite, le concert s'est achevé par des chants de Noël avec les deux chœurs réunis, donc le chœur d'enfants et le chœur Nota Bene. Et alors, avec des divers Noël, Noël est arrivé, Noël anglais et Noël provençal. Alors, dans une harmonisation de Jean Bouvard. Jean Bouvard, c'est le grand-père de Michel Bouvard.
Michel Bouvard.
Grand organiste que l'on connaît à Toulouse. Et donc, c'était à souligner. Et puis, Noël de Bourgogne. Et enfin, un Noël nouvelé dans une harmonisation de Marc Hopstadt, qu'on connaît bien aussi à Toulouse, qui est le directeur musical de la magnifique maîtrise du conservatoire, et donc qui était là, présent, et donc c'est lui qui a harmonisé ce Noël nouvelet qui a été repris en chœur par le public.
Maîtrise de Toulouse, dirigée par Marc Hopstadt, dans laquelle Juliette May a fait ses débuts. C'est là
exactement,
qu'elle a commencé.
Exactement.
Et voyez où ça mène.
Ah oui. Donc ça va donner de l'espoir à tous les membres de cette maîtrise, à tous les jeunes de cette maîtrise.
Voilà, Juliette May, une chanteuse à suivre. Nous terminons donc là-dessus. Petite virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Jean-Baptiste Fra et Serge Chosy pour la partie agenda de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La seconde partie de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy et Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'Orchestre National du Capitole, qui nous fait l'amitié d'être présent dans cette émission. Un délégué général que j'imagine très heureux, puisque nous avons appris la semaine dernière la nouvelle que nous attendions et espérions tous depuis deux mois, la nomination officielle de Tarmo Peltokoski à la direction musicale de l'Orchestre National du Capitole. Certes, comme je le disais en début d'émission, sa prise de poste sera effective en septembre 2024, mais nous le reverrons bien sûr à la tête de notre cher ensemble symphonique d'ici là, avant de parler en détail du contrat que le jeune chef finlandais a signé pour 5 ans. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce qui a décidé Tarmo Peltokoski à s'engager avec l'orchestre du Capitole? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui lui a plu dans le projet toulousain, selon vous, ou pour ce que vous en savez? Et vous savez des choses, évidemment.
Bon, merci de votre invitation, déjà. Ce qui a séduit Tarmo Peltokoski, je dirais, en premier lieu, ce sont les musiciens. Évidemment, quand on s'engage pour un travail de ce type-là sur le long terme avec l'orchestre, il faut quand même sentir que la relation va être fructueuse. Et ça, je pense qu'il l'a immédiatement senti dès le mois de septembre au Festival Ravel. Et puis, quand il est revenu, ça n'a fait que concrétiser tous les espoirs. Donc, c'est la première chose. Et puis, j'élargis même aux équipes. Parce qu'il a bien senti qu'il y avait quand même une structure professionnelle et très engagée, où il s'est senti immédiatement à l'aise. La deuxième chose, je dirais, c'est l'expérience Tougansokiev. Voilà, parce qu'il est très jeune, il sait qu'il est au début d'une carrière qu'on imagine absolument extraordinaire, et il faut qu'il se construise. Voilà, et c'est ce que l'orchestre a su faire avec Tougan, dans un partenariat gagnant-gagnant, je dirais, qui fait que Tougan aujourd'hui est un des plus grands chefs de la planète, et il se dit, cette expérience, je peux sans doute la reproduire. Ils sont très différents, évidemment, mais ça a sans doute pesé. Troisième chose, vous savez que c'est un musicien passionné d'opéra, et c'est la force de notre maison, d'avoir l'opéra et l'orchestre, et la perspective pour lui de diriger des ouvrages dans la fosse du Capitole, qui est quand même un opéra majeur français, reconnu en France et bien au-delà.
On peut en témoigner.
Qui vient d'être qualifié de national.
Oui, oui,
absolument.
Donc il y a peu de temps.
Donc voilà, c'est autant de paramètres.
Et vous lui avez fait visiter en plus le lieu. Il a visité le lieu, il a vu la fosse.
Il a visité, quand il est venu au mois d'octobre, on a tout fait pour le séduire. Hein. On lui a offert tous les disques de l'orchestre, les opéras enregistrés par Michel Plasson. On lui a fait un petit numéro de séduction.
Bah oui,
ce qu'il fallait faire. Ça a marché, c'est bien. Bravo.
Et je peux dire, il nous a choisi parce que c'est... Voilà, il faut en être conscient, c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité partout où il passe, il fait le même effet, et donc tout le monde essaye de s'attacher ses services d'une manière ou d'une autre, et il a choisi Toulouse, au grand bonheur, à mon avis, du public toulousain.
Oui, alors donc, pianiste à la base, Tarmo Peltokoski, comme d'autres chefs d'orchestre prestigieux avant lui, mais passionné par Wagner. Je crois que c'est vraiment son grand musicien, c'est sa figure tutélaire, pourrait-on dire.
Absolument. Il dit, c'est la raison de mon existence. Wagner est la raison de mon existence. À tel point qu'il peut être plus excité d'aller à une représentation de Wagner... Et je pense à Tillman en particulier, parce qu'il vénère Christian Tillman. Il considère que c'est le meilleur wagnerien aujourd'hui, que de diriger lui-même un concert. Voilà. Donc oui, il a commencé le piano très jeune. C'est sa grand-mère qui était professeure de piano qui lui a donné les rudiments du piano. Et à 11 ans, il a découvert la musique de Wagner à travers YouTube.
Donc c'est un jeune de sa génération.
Parce qu'à 11 ans, c'était seulement il y a 11 ans.
Oui, on se rend pas compte.
Donc c'est quand même assez
récent. À 22 ans, il a déjà un parcours long.
Et donc, il s'est complètement fasciné. Il s'est fait offrir toutes les partitions des opéras de Wagner par ses parents à 11 ans. Et il a dévoré ça à tel point qu'aujourd'hui, il peut... Il peut vous jouer la tétralogie au piano d'un bout à l'autre sans s'arrêter. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais.
Donc il a passionné, habité même, je pense.
Une boulimique de musique et avec des capacités qui sont au-delà de ce que j'ai jamais vu. Quoi.
Alors quelles sont ces qualités qui en font d'ores et déjà un chef pas comme les autres?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est souvent... On peut dire que les chefs ont soit des qualités de sensibilité, quelque chose d'assez instinctif qu'ils arrivent à traduire magnétiquement à l'orchestre. Mais souvent, ces chefs très talentueux, à l'instinct, si je puis dire, ne sont pas forcément des chefs très construits sur le plan stylistique. On parlait tout à l'heure de Katia Binetichvili, etc. Ouais. Sur le plan de la structure. Voilà. Et lui... En fait, il a les deux. Et ça, c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est extrêmement pensé, rien n'est fait
structuré,
au hasard.
Voilà.
En même temps, il est capable d'insuffler à l'orchestre une sensibilité, une sensualité, même, je dirais, absolument bouleversante. Et il obtient de l'orchestre des choses absolument fabuleuses, des pianos, des dynamiques fabuleuses.
Mais son exécution de la symphonie de Chostakovitch, qu'il avait donnée ici dans son concert en octobre, était stupéfiante. Et puis, tu sais qu'on est habitué
avec Tchaïkovski, on l'a entendu.
Avec Tugan, c'était quand même gonflé.
Il a vraiment convaincu.
Oui, parce qu'on n'échappait pas au jeu des comparaisons, là, inévitablement.
Non, donc il a convaincu les musiciens autant que le public.
Alors, je crois qu'il y a une chose aussi, d'après ce que j'ai compris, qui lui a beaucoup plu à Toulouse, c'est le côté familial, ville à taille humaine, orchestre à taille humaine, tout en étant un des meilleurs orchestres européens aujourd'hui, même internationaux. Mais ce côté familial pour, je le répète, un tout jeune homme, tout de même, qui a très vite, il est rentré dans le monde de la musique, et je crois qu'il dit lui-même, finalement, je ne connais pas grand-chose de la ville. Est-ce que ce côté-là a joué aussi?
Oui, je pense, absolument. C'est quelque chose auquel il est très, très attaché. Il faut voir, c'est quand même énormément de pression pour un jeune homme de 22 ans. Je ne pense pas qu'il réalise lui-même vraiment ce qui lui arrive. Et donc, c'est vrai que ce côté très chaleureux de l'orchestre, très bienveillant, il l'a senti et il s'est dit, c'est ici que je dois... C'est ici que je dois être. Absolument, il a senti... Et ça, on l'a senti encore plus au mois d'octobre, où du coup, les musiciens sont venus le voir, discuter avec lui de musique, mais aussi de toute autre chose. Et du coup, je pense à contribuer à le mettre à l'aise, dans des bonnes dispositions. Et voilà, ce qui a fait qu'il nous a choisis.
Mais je crois que c'est aussi c'est un garçon très sérieux, comme vous l'avez dit, passionné, qui vit pour la musique, mais je crois qu'il y a un côté humble, et que c'est quelqu'un qui aime rire aussi. Enfin, vous avez eu l'occasion de le pratiquer en dehors, évidemment, de la direction de l'orchestre, des répétitions, et vous avez pu constater, bah oui, c'est un jeune homme de son temps, qui aime aussi s'amuser, discuter avec des amis autour d'un bon repas.
Oui, alors c'est au premier abord, c'est plutôt un taiseux. Hein. C'est quelqu'un
d'assez... Un scandinave,
c'est...
Voilà,
c'est un Finlandais.
Ouais,
hein, voilà.
Ouais.
Donc, mais une fois qu'on a un petit peu brisé la glace, ou gagné sa confiance, effectivement, il aime rire, il aime les choses décalées et il est assez surprenant, hein, vraiment.
Il y a des vidéos sur YouTube, je conseille d'aller voir. On disait que lui, il avait beaucoup découvert d'œuvres sur YouTube. Allez, tapez Tarmo Peltokoski sur YouTube, vous verrez des espèces d'improvisations au piano. On le voit avec un clarinettiste aussi. C'est presque du stand-up, c'est assez étrange. Mais c'est bien lui, c'est bien le Tarmo Peltokoski qu'on aura à partir de septembre 2024. 12 à 14 semaines par an avec l'orchestre, c'est ça le contrat sur 5 ans avec 6 opéras.
C'est ça. La première saison, 24-25, il ne pouvait pas nous donner suffisamment de semaines. C'est dire comme il est occupé quand même, 24-25, c'est pas demain. Donc, il sera directeur musical désigné. C'est-à-dire, on va travailler à construire la saison ensemble. Le nombre de semaines ne justifiait pas. Mais à partir de 25-26, ça sera 12 à 14 semaines par an, selon le nombre d'opéras qu'il sera en mesure de diriger au Capitole, incluant les tournées, le rayonnement, les projets de discographie.
Et il bâtira la programmation des saisons chaque année, hein, sur ces 5 ans.
Absolument.
Ouais. Voilà, ça va être aussi, je pense, pour lui un travail passionnant parce qu'il doit avoir beaucoup d'idées, enfin j'imagine.
Ah oui, il bouillonne d'idées. Et c'est des discussions vraiment très passionnantes, très enrichissantes avec lui. Ouais.
Et puis, bon, il y aura cette relation avec les musiciens qui s'annonce vraiment sous les meilleurs augures. Nous n'allons pas lâcher l'Orchestre National du Capitole et ses musiciens, puisque Serge va maintenant nous présenter le prochain rendez-vous avec l'ensemble symphonique toulousain. Et le prochain rendez-vous, ce sont tout simplement les traditionnels concerts du Nouvel An. Il y en a deux, les 30 et 31 décembre à 20h, et puis bien sûr le 1er janvier à 18h, à la Halle aux Grains, cela va de soi. Qui va les diriger cette année et quel est le programme, Serge?
Eh bien, c'est un chef invité, un jeune chef invité que l'on connaît bien à Toulouse, qui est déjà venu deux fois, qui est natif de Macao, qui s'appelle Leo Quakman, donc un grand chef, qui est en même temps pianiste, Et donc, il est venu même récemment, le 24 septembre dernier, et au cours de son premier concert à Toulouse, il avait même joué du piano et dirigé l'orchestre dans le triple concerto de Beethoven, ce qui n'est pas une mince charge. Hein, donc, il a fait ça. Et là, donc, il revient diriger les concerts familiaux, festifs, on peut dire, du Nouvel An, dans un programme qui parle de Broadway en quelque sorte, et donc qui évoque la musique américaine avec de Bernstein l'ouverture de Candide et des extraits de On the Town, la comédie musicale de Bernstein, également avec les danses symphoniques de West Side Story, les célèbres, inévitables, et entre les deux, la Rhapsody in Blue de Gershwin, qui non seulement il dirigera, mais dont il jouera la partie de piano. Et voilà. Donc c'est vraiment intéressant de revoir ce jeune chef dynamique et très compétent, très très pointilleux aussi. Donc dans une musique assez décontracté en quelque sorte.
Bah oui, parce que nous avions déjà eu droit à un programme de ce genre il y a quelques années. C'est très festif, ça plaît toujours au public. Et c'est parfait pour terminer l'année et commencer la suivante. On écoute tout de suite un extrait des danses symphoniques de West Side Story, un extrait de la bande originale composée par Leonard Bernstein, interprété par l'Orchestre National du Capitole, placé ici sous la direction de Pierre Bleuze. Extrait des danses symphoniques tirées de la bande originale du film West Side Story, composé par Leonard Bernstein et interprété donc par l'Orchestre National du Capitole sous les directions de Pierre Bleuze. C'est une des musiques que vous allez entendre lors des concerts du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole les 30 et 31 décembre à 20h et le 1er janvier à 18h. Ces concerts ont lieu bien sûr à la Halle aux Grains et sont dirigés par Leo Quokman pour un programme intitulé Broadway avec des œuvres de Leonard Bernstein donc et de George Gershwin. Il y a certes trois occasions d'écouter ces musiques, mais je vous conseille de réserver très rapidement vos places parce que les concerts du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole sont toujours très demandés, très courus. La billetterie est en ligne comme d'habitude à l'adresse www.onct.toulouse.fr. C'est la fin de ce 212e numéro de Mélomanie auquel je remercie chaleureusement Jean-Baptiste Frat et Serge Chosy d'avoir participé. Merci beaucoup à tous les deux. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles. Joyeux Noël à tous et passez de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis et bien entendu en musique.